Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien chers séminaristes, mes bien chers frères, lorsque la Sainte Église propose à notre vénération un saint pape, un souverain pontife, auréolé de la gloire du ciel, elle nous fait entendre les paroles mêmes par lesquelles notre Seigneur a institué le premier pape, Saint-Pierre, dans sa charge de chef de l'Église. Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ceci? Paie mes agneaux. Simon, fils de Jean, m'aimes-tu? Paie mes agneaux. Simon, fils de Jean, m'aimes-tu? Paie mes brebis. Ces paroles, bien sûr, nous montrent que lorsque notre Seigneur confie un pape son Église, il pose comme condition une charité éminente. Et ces paroles ensuite nous invitent à chaque fois que nous vénérons un saint pape à considérer précisément cette charité mise en œuvre, la charité avec laquelle il a régi l'Église. Cherchons donc à regarder dans le pontificat de Saint Pie X, notre patron, ces marques de charité éminente envers l'Église. En suivant Pie XII, le pape qui a canonisé Saint Pie X, et en reprenant l'image si chère à notre Seigneur du pasteur, nous aimerions souligner trois marques d'éminente charité de Saint Pie X envers l'Église. Tout d'abord, ce pasteur saint vénéré a consolidé la bergerie. Ensuite, il en a chassé les loups. Et finalement, il a mené les brebis au bon pâturage, au meilleur des pâturages. Il a consolidé l'édifice en manifestant d'une manière plus claire ses armatures, ses jointures, ses structures. Ce qui parfait, ce qui mène au plus sublime, la vertu de charité, c'est le don de sagesse. Or la sagesse ordonne, met l'ordre dans les choses, dispose tout avec ordre, poids, mesure. Saint Pie X sait très bien que, afin que le bien se fasse dans l'Église, il faut de l'ordre. Et afin que cet ordre soit plus parfait, il a voulu rassembler toutes les lois de l'Église, toutes ces ordonnances de l'Église, afin qu'elles soient plus facilement compréhensibles, plus abordables à tous, en un seul volume, le Code de droit canonique. Bien que publié 3 ans après son décès, en 1917, c'est à son initiative que nous lui devons ce très grand bien. Un droit canonique d'une perfection inégalée, Chacune de ces lois est une expression de la sagesse et en même temps de la pureté de la foi, à tel point qu'on se sert de ces lois comme d'autorité doctrinale en théologie. Oui, Saint Pilice le savait bien. Pour qu'il y ait le bien, pour que le bien puisse se faire facilement, il faut l'ordre. Et sa charité se manifeste d'une manière encore beaucoup plus héroïque dans cette lutte contre ces erreurs pernicieuses qui s'étaient infiltrées dans l'Église. Il les a démasquées magistralement de cette encyclique qui commence par ces mots « Pascendi Dominici Gregis », le devoir de paître le troupeau du Seigneur. Il démasque ces erreurs du modernisme. Mais cela ne suffit pas. Il ne suffit pas de dire que le loup a des dents, qu'il a une mâchoire puissante et qu'il est dangereux. Il ne suffit pas de démasquer l'erreur. Il faut poursuivre le loup. C'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'aujourd'hui on lui reproche. Elles sont nombreuses les voix qui reprochent à Saint Pilice son manque de charité envers ces théologiens modernes qui voulaient donner du souffle à l'Église, modernistes qui empestaient l'air de l'Église. Terreur mortifère. Elle se répand malheureusement un peu partout, cette idée selon laquelle il faudrait toujours faire preuve d'une mansuétude inconditionnelle envers ceux qui propagent l'erreur. Il n'en est pas ainsi. Et ce qui est évident dans l'ordre naturel, appliquons-le aussi à l'ordre surnaturel. Un exemple, l'an passé, à l'occasion d'un orage, un groupe de loups s'était échappé d'une réserve dans le sud de l'Allemagne. Et l'un de ces loups mettait à cœur joie sa liberté dans les collines du Jura au sud de Bâle. Les troupeaux de moutons s'étaient égorgés les uns après les autres. Les communes concernées, immédiatement, sans laisser la chose traîner, se sont rassemblées. Les chasseurs, et ce n'était pas à l'époque de la chasse, ont été rappelés à l'ordre pour ce service. Tout le monde traquait la bête, et finalement, lorsqu'elle fut tuée, ce fut le soulagement, l'approbation de tous. Ainsi devrait-il être lorsque ces loups, bien plus dangereux, s'attaquent non plus à des moutons, mais aux brebis du Seigneur, au Fils de Dieu, en leur arrachant la vie surnaturelle. Oui, Saint Pilice, dans ce combat qui n'était pas facile, a fait preuve sans aucun doute d'une charité éminente envers Dieu, envers la vérité et envers l'Église. Et Saint Pie X aussi s'est appliqué à conduire les brebis à notre Seigneur. À notre Seigneur qui veut se faire la nourriture de ses enfants, de ses brebis. C'est lui, Saint Pie X, qui a invité toutes les brebis à aller à notre Seigneur, à la Sainte Eucharistie. C'est lui qui en a facilité l'accès, en rappelant que si on était en état de grâce, et avec les bonnes conditions, l'intention droite, on pouvait communier tous les jours. C'est Saint Pie X qui a invité les petits, les enfants à venir à la communion dès qu'ils ont l'âge de raison, dès qu'ils sont capables de discerner le bien et le mal et de discerner dans l'hostie notre Seigneur Jésus-Christ. Y a-t-il une plus grande charité que de donner notre Seigneur, notre Dieu, aux hommes? Oui, Saint Pie X s'est vraiment montré pasteur. Il a montré sa charité envers Dieu, il a montré combien il était près de Dieu. Mais aussi, il a montré combien il était près des âmes, en vrai pontife, celui qui fait le pont entre Dieu et les âmes, en les menant à Dieu. Mais essayons aussi, mes bien chers frères, de tirer quelques applications pratiques pour nous-mêmes, pour notre vie, de ces trois exemples de la charité. Saint Pie X, nous l'avons vu, était un homme d'ordre. C'est à lui que nous devons cette magnifique prière à Saint Joseph pour le travail. C'est un homme qui a posé par-dessus toute chose le devoir. Il a rappelé que le premier de ses devoirs, c'était le devoir d'État. Que c'est dans ce devoir d'État que les âmes se sanctifient. Et qu'est-ce que ce devoir d'État? Eh bien, ce sont toutes ces petites choses, ces menus devoirs de tous les jours, ces petites activités communes, banales, de temps en temps, certes, égayé par quelques surprises qu'on appelle des croix. C'est dans ces petites choses, dans la fidélité, dans une fidélité généreuse qui facilement devient héroïque, que l'âme doit se sanctifier. Saint Pie X et son amour de la vérité, son amour de la foi. Souvenons-nous, mes bien chers frères, que le devoir d'apprendre la doctrine chrétienne ne s'arrête pas à la fin de l'école primaire ou secondaire. Le devoir de s'instruire, de nourrir sa foi, de la défendre, de la protéger. C'est un devoir qui s'étend jusqu'au dernier jour de notre vie. Et aussi, considérons Saint Pie X dans ce combat contre les erreurs. Que dirait Saint Pie X aujourd'hui? Lui qui a chassé hors de l'Église, qui a banni ces hérétiques, Il n'en dormait pas la nuit, parce qu'il est dur. Il est dur de frapper ses propres enfants. Que dirait Saint Bilis qui a banni leurs livres? S'il entendait qu'aujourd'hui, dans les familles chrétiennes, au plus intime du foyer, on laisse résonner leur voix, et même leur image. S'il est interdit de conserver un livre mauvais, il est tout aussi défendu de conserver leur voix ou leur visage. Nous vivons une époque où l'air est infesté. Que font les gens lorsque l'air est rempli d'un gaz toxique? Eh bien, ils mettent le masque à gaz. Eh bien, mes chers frères, aujourd'hui, si l'on ne met pas le masque à gaz, que ce soit pour lire les journaux, que ce soit pour écouter la radio, ou pour regarder la télévision, eh bien, on meurt à coup sûr. Et quel est ce masque à gaz? Le formel du masque à gaz, c'est un filtre. Un filtre par lequel on empêche les substances toxiques de parvenir jusqu'à nous. Sans aucune crainte de me tromper, j'affirme que celui qui, sans discernement, sans raison grave, c'est-à-dire proportionnée, permet dans sa maison l'usage de la télévision, commet un grave dommage à son âme et se prépare un redoutable règlement de compte au jour du jugement. Il n'y a pas que la question du sixième commandement ou du neuvième, il n'y a pas que la question des mœurs. La télévision, c'est l'essence même de l'esprit du monde. Pourquoi les familles chrétiennes ne sont-elles plus chrétiennes? Parce qu'on y a laissé pénétrer au cœur même du foyer l'esprit du monde. Et la foi, mise en danger par cette boîte. Oui, mes bienfaits, chers frères, il vaut bien la peine de réfléchir sur ses devoirs. L'excuse trop facile selon laquelle il y a de bonnes émissions devrait nous faire penser que lorsque on essaie d'attraper un poisson, on met toujours un bel appât au bout de l'hameçon et qui sera assez fort pour prétendre pouvoir gober le ver sans l'hameçon. On n'a pas le droit de pécher, on n'a pas non plus le droit de se mettre dans l'occasion de pécher, librement. Saint Pédis a conduit les âmes, les brebis à la Sainte Eucharistie. Dans ces temps difficiles, si durs, qui réclament, nous le savons bien de vous, tous les jours des actes héroïques pour rester en état de grâce, Où allez-vous trouver la force pour faire ce qui, naturellement, paraît impossible, sinon au pied de la croix, à la Sainte Messe, réconforté par le pain des anges, ce pain d'effort, notre Seigneur lui-même, Dieu Tout-Puissant, Dieu qui peut tout, Dieu Créateur. Saint Paul, dans l'Épître aux Romains, nous dit, lorsque Dieu le Père nous donne son Fils, comment, en nous donnant son Fils, ne nous aurait-il pas tout donné ? Celui qui a Jésus-Christ possède tout. Celui qui ne l'a pas ne possède rien. Tout, toutes les difficultés, tous les problèmes, tout sera résolu dans l'union à notre Seigneur. C'est lui qui donnera la force de supporter les croix. Il ne les enlèvera pas, car il en connaît trop le prix pour nous. Mais il nous donnera la force de l'aimer à travers toutes les difficultés, toutes, encore une fois. C'est lui qui donnera cet héroïsme. C'est lui qui fera, finalement, que notre vie ne sera plus la nôtre, mais la sienne. Je vis. Non, ce n'est plus moi qui vis. C'est Jésus qui vit en moi. Cette parole n'est pas réservée à Saint Paul. Ce doit être la parole de tout chrétien. Allons donc en ce jour, en cette solennité de Saint Pie-X, à notre Saint Patron. Demandons-lui par son intercession qu'il nous obtienne cet amour du devoir, cet amour de la vérité, de la foi, cet amour de notre Seigneur Jésus-Christ, de la Sainte Hostie, de Dieu, afin que, par cette intercession, nous arrivions tous un jour à la gloire du ciel pour pouvoir célébrer avec lui la gloire, l'honneur de notre Seigneur Jésus-Christ, de la très sainte Trinité, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.
Après savoir célébré la fête de chaque saint, l'une après l'autre, la Sainte Église catholique célèbre en ces jours la fête de tous les saints, la Toussaint. C'est donc la fête des anges, des patriarches, des prophètes, des rois, la fête des apôtres, des martyrs, des confesseurs, des vierges, des anachorètes, des ermites. Et c'est la fête de cette foule innombrable, de ceux qui nous ont précédés, qui ont peut-être vécu parmi nous et qui sont déjà au ciel. Et voilà pourquoi ces jours, c'est pour nous tout d'abord un encouragement, une confirmation, car nous ne faisons que continuer. L'Église de toujours, tant que nous ne faisons que continuer, tous ceux qui, cessant de l'Église triomphante, ont fait pendant leur vie. Et puis nous pourrions dire que c'est aujourd'hui la fête de la sainteté. Et alors, nous pouvons nous demander quelle est la source, quelle est l'origine de cette sainteté. Et puis, comment elle arrive jusqu'à nous? Comment était-elle arrivée jusqu'au saint? Car apprendre les choses du côté humain, les saints étaient comme nous, avec des qualités et des défauts. Alors, cette sainteté, d'où vient-elle? Et comment est-elle arrivée à éclater dans cette foule des saints? Toute sainteté trouve sa source, son origine en Dieu. Il est l'origine, il est la règle, il est l'objet, il est la fin de toute sainteté. Et donc nous trouvons tout d'abord en Dieu lui-même cette éclatante sainteté. Dans le langage de l'Écriture sainte, c'est la justice parfaite, c'est-à-dire l'accord de nos vouloirs et de nos actes avec la loi éternelle. Or, cet accord est parfait en Dieu. Le vouloir et l'agir en Dieu s'identifient avec cette loi éternelle, cette règle de perfection pour chaque chose qui est son essence, qui est son idée, son intelligence. Et puis, la sainteté, c'est la charité. La perfection de la charité. Or, Deus caritas est. Dieu est charité. La perfection, disons-nous, c'est l'union à Dieu par le lien de la charité. Or, Dieu se porte en amour infini. Et c'est cela, sa charité, source de toute charité, de tout amour, de toute dilection. Et même l'amour des créatures qui est infini, miséricordieux et infini, est tout à fait ordonné à son propre amour. Il est donc un océan de charité, d'amour, de dilection, de miséricorde. La sainteté, c'est aussi la pureté. C'est l'absence des souillures, de péché, d'imperfection. Or, Dieu est immaculé. En lui, il n'y a aucun mélange d'erreur, de péché, même pas d'imperfection. Il n'y a pas d'alliage avec quoi que ce soit des vils ou d'imparfait. Il est infiniment au-dessus de toute créature. Et nous pourrions dire aussi, la sainteté, c'est de tout rapporter à la gloire de Dieu. Or, Dieu, dans ses actions, dans ses œuvres, rapporte tout à lui-même et à la manifestation de sa gloire. La création, le gouvernement divin du monde, l'économie du salut, la rédemption, tout cela est ordonné à la gloire de Dieu. Et c'est pourquoi l'Écriture sainte dit que Dieu est saint dans ses œuvres. Et puis un autre aspect. Chez les saints, quand nous parlons de sainteté, nous entendons dire la pratique héroïque et parfaite de toutes les vertus chrétiennes. Et voilà que nous trouvons en Dieu toutes les perfections de la création, de la nature, mais surtout toute la perfection des saints. Les saints ne sont que la manifestation multiforme de cette sainteté qui préexiste en Dieu. Et c'est pourquoi notre Seigneur dans l'Évangile nous dit « Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait ». Et l'apôtre Saint-Pierre, à l'image de celui qui est saint, soyez vous aussi saint dans toutes vos actions, car il est écrit, vous serez saint parce que je suis saint. C'est une citation du Lévitique. Vous serez saint parce que je suis saint. Nous, les chrétiens, les catholiques, qui avons un rapport intime avec Dieu, nous devons être saints, car lui-même, il est saint. Et cette sainteté nous a été surtout manifestée et communiquée par notre Seigneur Jésus-Christ, car lui-même, il est la sainteté substantielle. Déjà, au commencement de l'évangile de Saint-Luc, il est dit, au moment de l'Annonciation à Notre-Dame, la vertu du Très-Haut vous couvrira. Et voilà pourquoi les fruits saints de vos entrailles sera appelé le Fils de Dieu. Notre Seigneur est le saint par excellence. Et même les démons sont obligés de confesser cette vérité, c'est dans l'Évangile aussi. Par la bouche d'Adam possédé, qui appelle notre Seigneur, je sais qui vous êtes le saint de Dieu. Et cette affirmation, nous la trouvons jusqu'en dans l'Apocalypse. Cette vision de l'apôtre Saint-Jean, de l'agneau égorgé, qui a donné sa vie et son sang pour nous tous. Les 24 vieillards qui chantent « Saint, Saint, Saint ». Or, toute sainteté nous vient par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui d'abord qui nous l'a mérité. Et lui, il est la source. Car après le péché de l'homme, nous recevons toujours la grâce par notre Seigneur Jésus-Christ. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Et cette plénitude de sainteté qui s'est répandue dans l'âme de notre Seigneur Jésus-Christ, eh bien, c'est le modèle, c'est le type, c'est l'exemplaire d'après lequel doit se configurer, conformer toute sainteté dans l'Église catholique. Et notre Seigneur a voulu laisser ses trésors à l'Église catholique. L'Église catholique est sainte. Et cela, c'est une vérité de foi. C'est dans notre credo. Unam santam, une sainte. C'est défini par le concile de Constantinople au IVe siècle. Donc une vérité définie de longue date. Et d'ailleurs, on les trouve expressément dans l'Écriture sainte. Quand l'apôtre Saint Paul, dans l'Épître aux Éphésiens, nous dit que le Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle afin de la sanctifier. Alors, la rédemption de notre Seigneur serait-elle inefficace pour sanctifier l'Église? Et il ajoute, il s'est livré lui-même pour la sanctifier afin de se la présenter glorieuse, sans tache, sans ride, ni rien de semblable, mais sainte et immaculée. L'Église est donc sainte dans sa foi, dans sa doctrine, dans ses sacrements. Elle est sainte dans sa discipline, dans sa loi. Elle est sainte aussi dans ses membres, par une sainteté commune, dans tous ceux qui sont en état de grâce, par une sainteté héroïque, dans les grands saints. Elle est sainte aussi dans ses institutions, les ordres religieux qui pratiquent les conseils évangéliques. C'est là où on ne les trouve nulle part ailleurs. Voilà donc comme cette sainteté de Dieu est arrivée à éclater dans les saints. Et comment elle peut arriver aussi jusqu'à nos âmes et se manifester dans nos âmes? Nous avons tous les moyens. Or, comme c'est ici en partie le cœur de l'Église catholique, voilà que l'ennemi, le modernisme, s'attaque précisément là. Et toujours par le but œcuménique, on sacrifie et l'Église et notre Seigneur Jésus-Christ, empêchant ainsi la vie de la grâce aux âmes. Et alors, nous entendons parler de l'Église pécheresse. Et même cela, dans la bouche de celui qui est le gardien de la foi, le préfet de la congrégation pour la foi. Voilà, mes frères, pourquoi nous devons défendre cette doctrine et cette pratique jalousement, vaillamment, ne sont pas déteints pour la médiocrité. Et notre cher fondateur, Monseigneur Lefebvre, nous rappelait à l'occasion des séjours, la fête de la Toussaint, la coïncidence providentielle avec la reconnaissance officielle de la fraternité. Et alors, disait-il, il y a un lien profond, un lien mystique profond dans cette coïncidence. Car la fraternité, Saint-Pédis, a été voulue par Dieu pour faire de ses prêtres des membres saints, donc des saints prêtres, mais aussi pour sanctifier, les âmes. Demandons donc en ces jours, mes bien chers frères, chers séminaristes, à celle qui est la couronne de tous les saints, celle qui donne un éclat particulier au ciel, à la sainteté de tous les saints. Demandons à l'Immaculée, à la très sainte Vierge Marie, à Notre-Dame, de nous communiquer ces désirs de sainteté, de nous donner la fidélité à cet appel à la sainteté, de nous communiquer cette vertu, cette pureté, cette sainteté immaculée qu'elle avait, qu'elle a dans son corps, dans son âme, dans sa foi et dans sa charité. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.